Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, vendredi soir, chaudement, hein, dans toute la France, dans l'Hexagone, il fait vraiment chaud, il faut s'hydrater. Alors, chers auditrices, auditeurs de Beurre FM, tout simplement, beaucoup boire d'eau. Voilà, il faut boire de l'eau, hein, gentiment, tranquillement, à la maison, dans les transports, ou en train de nous écouter, peut-être encore au travail, parce que c'est pas le week-end, parce que d'autres personnes travailleront ce week-end. Mais nous, on est là, rien que pour vous. Comme à son habitude, avec toute l'équipe de Time Sport, je suis là, 20h, 21h, avec au menu de cette émission, en ce 17 juin 2022, vendredi soir, le mercato du Paris Saint-Germain. Ça surfe un peu pour Christophe Galtier. On reviendra aussi sur ce fameux mondial en hiver et peut-être la mort du football selon certains. Et aussi, c'est obligé, hein, c'est le 7e sacre des Golden State Warriors du côté du championnat nord-américain qui est la NBA. Et oui, Curry porte justement ces Golden State jusqu'au fameux sacre. N'oubliez pas le numéro de standard, on vous fait réagir, c'est le 01 53 48 3000. Le débat du jour, justement, cette fameuse Coupe du Monde 2022, ce sera la meilleure de tous les temps, selon son président de la FIFA, qui n'est autre que Gianni Infantino. Pour réagir, d'accord ou pas, vous nous faites part de votre optimisme, ou peut-être pas, hein, de votre pessimisme, au 01 53 48 3000. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par notre rédacteur Jason. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Et oui, bonsoir à tous, on démarre le JT du vendredi par le calendrier de Ligue 1 saison 2022-2023 qui a été dévoilé par la LFP, avec entre autres le déplacement du champion en titre, le PSG, sur la pelouse du Clermont Foot. L'OM recevra Reims, l'OL lui recevra l'AC Ajaccio, et le petit choc de la première journée sera entre le RC Strasbourg et l'AS Monaco à la Méno. En transfert, le Bayern Munich et Liverpool sont sur le point de conclure un accord concernant Sadio Mané. Le meneur de jeu sénégalais devrait donc bien quitter Liverpool comme prévu dans les prochaines heures. Toujours en transfert, un petit mot du Marocain Romain Saïs qui quitte lui officiellement Wolverhampton et rejoint Beşiktaş en Turquie pour une durée de 3 saisons contre un chèque d'1,8 million d'euros. Enfin, on termine avec du rugby, week-end crucial en top 14. Petit rappel des demi-finales qui commencent ce soir à 21h05 entre Castres et Toulon et qui se termineront demain soir à la même heure entre Montpellier et Bordeaux-Bègles. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Un grand merci, Jason, eh oui, pour toutes ces informations durant toute la semaine. Un très bon week-end à lui. Justement, il ne nous accompagne pas ce soir en plateau. Mais l'équipe qui m'accompagne ce soir, eh ben, on aura notre consultante, Alison, sans oublier le coach Tolé. Comment ça va, le coach?
Ça va, bonsoir à toutes et à tous.
Tu vas bien?
Ça fait plaisir, ouais, d'être là.
Ça fait vraiment plaisir, ouais, le coach Tolé. Hein. Oui. On n'a pas aperçu le coach Tolé, lui aussi. On a aperçu Zidane, je ne sais pas, du côté du Bosphore. On ne sait plus où il est, Zinedine Zidane, on le cherche.
Écoute,
vraiment,
il était...
on nous donne Galtier, on va revenir sur, ouais, cet épisode du Paris Saint-Germain. Oui, le coach Tolé, vas-y, je t'en prie.
Oui, il était tranquillement, hein, la semaine dernière, là où ça s'enflammait, à Aix-en-Provence, en train de... faire du sport. Voilà, il faisait du sport.
Fait bon du côté d'Aix-en-Provence.
Il faisait bon. Non, pas besoin d'aller bout du monde pour aller signer des...
Ouais.
Signer certains contrats. Non, il était bien à Aix-en-Provence, contrairement à ce qu'on a pu entendre.
Aïe, beaucoup de choses. Et justement, lui nous revient de très, très, très loin. Justement, c'est notre consultant avec sa chronique littéraire, Toto Bellozzo. Comment ça va?
Salut Bilal, ça me fait plaisir de te revoir.
Ah ben nous aussi, le coach Tolé, oui, j'allais dire, excusez-moi, Toto Bellozzo.
Bonjour,
ça nous
coach
fait
Tolé,
vraiment
bonjour,
plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, de t'avoir avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Comment ça va depuis tout ce temps? Ces infos au football, pas que, parce que aussi on va balancer une info qui sera assez très intéressante pour la semaine prochaine.
Ouais, bah écoute, effectivement, je vais te laisser peut-être tout à l'heure la primeur d'en parler, mais en tout
bien
cas,
sûr.
Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'avais pas mal de projets sur le feu que je vais mener à bien, et j'arrive quasiment au bout. Et me voilà de retour parmi vous, et ça me fait super plaisir.
Ah ben nous aussi, vraiment, on parlera, vraiment, parce qu'on aime beaucoup dans cette émission le 7e art, et aussi les documentaires avec Toto Bellozzo. Voilà, on vous en dit pas plus, il nous racontera un peu ce qu'il a fait depuis tout ce temps. Nous, on attend Alison, et oui, les demoiselles, elle n'est pas à l'heure, hein, ce soir, encore une fois, Alison, hein, mais elle nous écoute, voilà, elle est toujours à l'écoute, Alison.
Elle arrive.
Ouais, elle arrive assez vite. Justement, on va parler, allez, dans un premier temps, dans cette émission, n'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, on va s'attarder sur ce fameux mercato du Paris Saint-Germain.
Time Sport, le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Le sujet des
sociaux. Pas mal de choses à dire. Vraiment, Toto Bellozzo, on ne sait plus quoi dire. Hein, le PSG, on ne comprend plus rien. Zidane, Conceição, on nous donnait Galtier, on nous donnait Mourinho, on nous donnait encore Mancini avec Boula.
Ouais. Bah c'est un peu le mercato du Paris Saint-Germain. Ils nous ont habitués à ces épisodes avec
ah mais là il y en a beaucoup d'épisodes. Hein.
Ouais, c'est
c'est pas la saga Star Wars. C'est très très long là.
Ouais, bah je te dis, on est assez habitué. C'est le Paris Saint-Germain. Je vais pas faire de l'anti-parisianisme aujourd'hui.
Non.
Le Paris Saint-Germain.
Il faut parler.
A pour habitude d'être très souvent sur le devant de la scène pendant le mercato. Ils nous animent des intersaisons assez animées, assez romancé, on ne sait pas trop où on en est. Il vient pas, il a le stylo dans la main, il a pas le stylo dans la main. Voilà, on est dans cette danse que nous offre le Paris Saint-Germain tous les ans, même à le mercato d'hiver, il y a toujours plein de rumeurs. Mais là, encore une fois, voilà, après que le sujet Mbappé a été entériné, on a enchaîné tout de suite sur la saga Zidane et on ne sait pas où on en est quelque part.
Pour moi, c'est un problème.
C'est un problème.
Ouais, alors moi, pour moi, si on.
Paris Saint-Germain rejeté par Tchouaméni, il faut le rappeler, hein. Rejeté aussi par Pogba, on a l'impression, hein.
Oui.
Rejeté aussi peut-être par Dembélé, ou encore par Zidane.
Ouais.
Et aussi, ça a été confirmé par Mourinho.
En tout cas, là, ce qui est sûr, ce que j'entends depuis 10 jours, alors c'est vrai que là, il y a encore une semaine, on parlait de Zidane. C'est fait, il va prendre l'avion.
Ouais.
Moi, ce que je trouve assez dangereux, mais malheureusement, on a l'habitude un peu dans le contexte, dans ce type de milieu, c'est qu'en fait tout le monde a laissé faire, alors que j'ai la certitude par des collègues que Zidane n'a jamais pris l'avion et qu'il était bien à Aix-en-Provence pour finir une interview qui sera diffusée chez les confrères. Et en fait ce qui est extrêmement dangereux, c'est que quand tu connais...
C'est dangereux, c'est des fake news là alors. Carrément.
Ce que je trouve fou, c'est que à la limite, lui, il a pas à s'exprimer, lui fake news, il a pas à démentir. Par contre, le club du PSG laisse un peu la mayonnaise prendre. Ça s'enflamme de partout. On interroge des supporters marseillais, on donne nos avis. Mais il a vécu, il a pas joué, il a joué. Il y a sa photo sur le mur, sauf qu'il a jamais pris l'avion. Mais aujourd'hui, là. La victime de cette histoire, ça va être Christophe Galtier, qui certainement est en pôle pour être coach du PSG. Et en fin de compte, le gars n'a rien demandé. On peut après débattre sur son expérience, sur ce qu'il a fait, bref, peu importe, n'a rien demandé. Mais quand tu connais l'aura que représente Zidane dans le monde du football, et puis voilà, français, voilà, on va pas refaire encore sa biographie ce soir. Eh ben forcément, si Galtier t'amène à signer, moi je crains pour lui au niveau de l'environnement, en fait, de ses attentes, où tout de suite, ça va être très chaud pour lui. Je pense qu'il est prêt à ça. Hein.
Ah, déjà, il vient en sachant que c'est un choix par défaut, quoi qu'il arrive.
Oui, bien sûr. Mais après, à écouter, on a le sentiment, j'ai beaucoup entendu cette semaine, que t'as affaire à un coach de niveau départemental. Je suis pas en train de te dire que c'est lui qui va emmener le PSG là-haut, je n'en sais rien, on sait pas de toute manière, mais déjà, premièrement, commençons par le respecter, parce qu'au niveau de ses résultats avec des effectifs beaucoup moins importants, il a réussi, même d'ailleurs, à gagner le titre, face au PSG avec son Lille. Lui, il est dans une continuité de sa carrière où là, le PSG se présente. Comment refuser quand t'es Christophe Galtier?
Après pour revenir sur ce que tu dis, à son époque déjà Laurent Blanc était un choix par défaut. Je sais plus trop avec qui il était en lice à l'époque. Il y avait déjà des gros noms qui circulaient et finalement c'était le choix par défaut Laurent Blanc. Et bien que moi j'ai fait partie des gens à un moment donné qui ont critiqué le PSG de Laurent Blanc, finalement avec le recul de l'histoire, on se rend compte que le PSG du Laurent Blanc a été peut-être dans le jeu le Paris Saint-Germain le plus intéressant, Paris Saint-Germain le plus dominateur, que ce soit peut-être pas sur la Ligue des Champions, mais en tout cas sur la Ligue 1. Ils ont toujours affiché quelque chose d'attrayant, de sympathique, contrairement à ces dernières années où on enchaîne avec des coachs avec des noms qui finalement s'avère dans l'incapacité de pouvoir agir sur les collectifs, je vais pas dire improbable, mais assez incroyable au niveau de leur dimension. Quand on ramène Neymar, quand on ramène Messi, quand on ramène ce genre de joueurs, c'est toujours difficile à driver. Et j'ai l'impression qu'on ramène que des noms finalement. Et est-ce que là pour le coup, on est peut-être dans la dynamique à l'époque d'un Laurent Blanc avec un Galtier qui pourrait venir et créer la surprise sur le terrain et se dire.
D'accord.
Alors, est-ce qu'il en est capable avec des cadres comme Messi ou quoi que ce soit,
c'est C'est ça, c'est une autre histoire, ouais, mais c'est une autre histoire, mais si Galtier fait partie, je pense aujourd'hui des trois meilleurs techniciens français. Si Galtier, même si on n'en parle pas beaucoup, fait partie aussi des prétendants un jour à prendre peut-être l'équipe de France.
Ouais, c'est la piste prioritaire en tout cas.
Si Galtier a été sollicité par le Milan AC avec Campos il y a deux ans, c'est pas le hasard non plus. Je suis pas en train de te dire que c'est lui qui va métamorphoser le PSG, parce que je pense que il y a une réflexion qui ne bouge pas du côté du PSG, c'est l'environnement. Et je crains encore pour lui au niveau de l'environnement, mais c'est que c'est un mec qui allait. Il a ce qu'il faut pour pouvoir s'imposer maintenant, faire confiance. Si demain on nomme Galtier Sélectionneur, entraîneur du Paris Saint-Germain, fait en sorte qu'il puisse réussir, commence pas déjà à le défoncer, à le défoncer dans tous les sens. Et ce que je crains malheureusement, parce que c'est Galtier, c'est pas Zidane, parce que petite carrière moyenne de joueur, parce que Lille c'est pas le PSG, parce que Nice c'est pas le PSG, parce que Saint-Étienne c'est pas le PSG, parce que Lyon, n'oublions pas qu'il a été champion de France avec Perrin, c'est pas le PSG, mais Galtier, il est dans sa continuité. Des meilleurs coachs.
Ça va bien, c'était le cas de toute façon. Alors justement. De tous les coachs qui sont passés au Paris Saint-Germain, de Tourelle,
on a été rejoint par notre consultante Alison et on a Rafik qui nous écoute ce soir et il nous dit, l'auditeur, au-delà de l'aura de Tobelozzo, il faut trouver un coach, le coach Tolé, pour travailler en osmose avec Campos. C'est pas faux, là.
Bah Galtier fait partie de ses choix. Justement.
C'est le profil idoine.
Bah, en tout cas, c'est un de ses profils. C'est Campos qui le fait venir, hein.
Ouais. Bonsoir Alison.
Bonsoir à tous.
Le Paris Saint-Germain, Alison.
Oui, le Paris Saint-Germain.
Justement, son mercato.
Et son mercato qui sort des noms pour les entraîneurs. On a évoqué sur ce plateau la piste Zidane. On est en train d'évoquer avec mes très chers consultants la piste Galtier. Moi, encore une fois, ce qui me freine dans la potentielle venue de Galtier, il s'inscrit encore une fois sur la lignée de ce que les supporters reprochent dans la venue de tous les joueurs qui sont venus au Paris Saint-Germain. Je m'explique. C'est-à-dire que encore une fois, on va potentiellement faire venir un entraîneur qui ne respecte pas forcément l'entité du Paris Saint-Germain. Je le rappelle, il y a encore quelques mois, Christophe Galtier avait des propos assez sanglants envers le Paris Saint-Germain. Il disait que pour lui, le Paris Saint-Germain n'était pas forcément un club. Enfin, il portait pas le Paris Saint-Germain dans son cœur. Il s'inscrivait plus du côté de l'OGC Nice. Maintenant, une fois qu'on lui fait un appel du pied avec un peu des sommes alléchantes, et ben ça retourne sa veste. C'est-à-dire que l'OGC Nice, ça dégage. Je veux plus en parler. Et pourquoi pas il a déclaré lui-même.
Mais c'est pas propre à Galtier, c'est propre à tous ceux qui gravitent autour du Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Oui, mais je suis d'accord. C'est pour ça que encore une fois, je dis que ça me dérange quand on veut faire le ménage, soi-disant au Paris Saint-Germain, parce que là, c'est dans cette optique-là que les Qataris vont et que l'émir va avec le remerciement de Leonardo, parce que c'est quand même une source de problèmes, avec la venue de Campos qui lui dit qu'il va mettre du ménage dans la maison, qu'il va faire le ménage, que l'institution, en gros, je caricature un peu, va être de nouveau mise au centre, que lui, il est là pour travailler avec les joueurs, refaire le boulot d'un directeur sportif et recruter un entraîneur qui s'entendra bien avec lui. Bah là, on va potentiellement vers un entraîneur. Alors oui, je le conçois que Galtier s'inscrit dans ce qu'on se fait de mieux, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans le football français au niveau entraîneur. Mais encore une fois, on tend vers les mêmes problèmes. C'est-à-dire que un entraîneur déjà qui n'a aucune attache avec le Paris Saint-Germain, avec un entraîneur qui ne porte pas forcément le Paris Saint-Germain dans son cœur, avec un entraîneur qui viendrait pour des motifs financiers, mais à part ça,
quel entraîneur tu mettrais qui cocherait toutes les cases, justement? Peut-être hormis peut-être un Luis Fernandez.
Je pense exactement à ça, la réalité.
Alors,
ça,
qui coche toutes les cases, tu vois?
Bah, alors, il n'y a personne.
Non, mais ça, c'est la grande interrogation. Justement, tu viens d'évoquer Luis Fernandez. C'est vrai que c'est un nom qui m'a effleuré aussi l'esprit. Mais moi, en tout cas, Galtier, ça me dérange. Honnêtement, ça me dérange je trouve ça très, très paradoxal. Quand on sait vers quoi le Paris Saint-Germain veut tendre, veut aller la saison prochaine et qu'on évoque le nom de Christophe Galtier, honnêtement, on voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a un problème et on voit qu'il y a une continuité quelque part qui n'est pas cohérente.
Ouais, les auditeurs qui nous balancent Thiago Motta, pourquoi pas.
Mais tu seras d'accord avec moi quand même, Alison, que avec le projet qu'a développé et l'image que renvoie le Paris Saint-Germain depuis quelques années, depuis notamment l'arrivée des Qataris, c'est ils favorisent grandement l'esprit un peu mercenaire du football, c'est-à-dire on est capable de faire des propositions que personne ne peut faire sur le marché. Et tu vas venir, tu vas porter les couleurs. Et c'est pas un amour du maillot qui va les rapprocher du club, mais plus un amour de l'argent. C'est et là, l'argent. Finalement, on est dans cette logique-là. Même si, sur le fond, moi, je suis un romantique. Je reviendrai ouais. sur le romantisme du football. Mais
alors,
je suis assez d'accord avec toi qu'il faudrait une identité parisienne pour ce club. Mais qui?
C'est vrai que pour le ouais, coup, il y a eu ce débat sur Zidane. Il n'a pas joué, il n'a jamais ouais. joué à Marseille, nanana. Enfin bref, alors, le débat sans fin.
Galtier a joué à Marseille. Hein.
Et Christophe Galtier, on n'en parle pas, mais
vraiment,
il est né à Marseille.
Il a fait remonter l'équipe en première division.
Il a fait partie de l'équipe espoir qui a été championne du monde, je ne sais plus en quelle année là, avec Laurent Blanc, Franck Sauzet, etc. Il a joué à Marseille. Lui pour le coup
mais ça tout le monde semble l'oublier.
Mais parce qu'il a pas ça c'est pas la même image, c'est pas il y a pas la même aura que Zidane, mais c'est un vrai pur marseillais.
Et ça dérange personne.
Ouais.
Visiblement,
c'est,
ouais.
Non, il faut l'évoquer, c'est important.
C'est vrai que c'est hypocrite, c'est que là, à ce niveau-là, ouais. ça dérange personne. Et j'ai même le sentiment que si demain il est amené à entraîner le PSG, il peut très bien 5-6 années plus tard entraîner l'Olympique de Marseille parce que c'est son
c'est
oui puis c'est partie du c'est le football aussi d'aujourd'hui malheureusement
hein. C'était champion d'Europe espoir en 88
pardon avec Sauzet etc
c'est ça
exactement
ouais, une belle génération en 88 on enfin, se rappellera
elle,
aussi
elle,
de Marco
juste pas
Van
confirmé
Basten.
Après hein. elle ouais. va pas au Mondial 90 l'Euro 92 contre le mur et 94 non plus on a regardé
ouais.
la télé
ah ouais, ouais. c'est assez fou Marco Van Basten on fait remporter un magnifique livre ce soir. Rien de plus simple, vous composez le 0153483000. Voilà, et on essaye de vous le faire, de vous l'envoyer, ça on vous l'enverra. Mais il faut juste appeler et un peu discuter, débattre avec toute l'équipe, avec Alisson, avec le coach Tolé ou encore Toto Bellozzo. Voilà, aux éditions Solar. Marco Van Basten, tout sur sa vie. Et oui, Basta, le titre qu'il a émis concernant ce magnifique bouquin. Vous restez avec nous, on va revenir avec aussi là... Le Mondial 2022 du côté du Qatar avec son président de la FIFA qui n'est autre que Gianni Infantino. On parlera aussi de la NBA avec les Golden State Warriors. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, nous sommes de retour. Il est 20h et 22 minutes en ce vendredi soir. Yannis est tout à fait heureux ce soir. Eh oui, il fait chaud dans les rues de Paris, à travers le pays. Ça lui fait vraiment plaisir. Peut-être y partir en week-end avec le coach Tolé du côté de la cité phocéenne, voire encore sur la rade de Toulon. Voilà, c'est pas mal Toulon, le coach Tolé.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal Toulon.
Tu connais mes vacances toi déjà.
Ah ben voilà, tranquillement, le coach Tolé. Eh oui, première journée du côté de l'Orange Vélodrome.
C'est possible.
Oui, tranquillement. Alisson est toujours là, accompagné de Toto Bellozzo et aussi de la ravissante Alia. Voilà.
Alia, ouais,
ah, c'est ça, elle est avec nous. Oui, elle c'est est gentil. Avec nous ce soir, c'est très gentil. Un petit clin d'œil aussi à Giovanni qui a bien travaillé durant cette semaine, qu'on pourra retrouver à partir de la semaine prochaine. Nous, on va enchaîner justement, on était sur le cas du Paris Saint-Germain, de son mercato. Et oui, on a tant parlé dans cette émission à travers les médias, Alisson. On ne voit rien venir pour le moment. Galtier, peut-être, ça sera le candidat idéal quoi pour cette fameuse équipe qui est le Paris Saint-Germain. C'est vrai, Toto Bellozzo, pourquoi pas. Un entraîneur français dans un club français mythique.
Mais du coup, on en fait quoi, Zidane
grand.
Je comprends plus.
Mais Zidane, je sais pas, il nous a dit qu'il était en train de se promener.
Je comprends plus, moi.
Qu'il était assez cool, quoi, Zidane. Il était en vacances, hein.
Non, mais la réalité, il a jamais pris l'avion, hein.
Non, mais
il est à Aix-en-Provence en train de, voilà, en train de faire du sport. Mais
ouais.
c'est une vraie info.
On rigole pas là. Le coach Tolé balance une vraie info.
C'est une vraie info que j'ai eue moi cette semaine par des personnes qui étaient avec lui. Il était à Aix-en-Provence tranquillement.
Moi, je veux bien croire tout le monde. Selon certaines sources, Zinedine Zidane aurait déjà signé. L'officialisation se ferait à la fin du mois. Maintenant, selon d'autres source, Claude Tolé, pour le coup, je la cite, il aurait juste fait une partie de tennis.
Moi, je te dis qu'il était à Aix. Je ne te dis pas qu'il ne va pas signer, je te dis qu'il était à Aix la semaine dernière, et là, on l'annonçait qu'il allait prendre l'avion pour signer.
Ouais.
Ah, donc il y a signature.
Après, les autres infos que j'ai, c'est que visiblement, c'est pas une question d'argent, en fait.
C'est bien Zidane.
La réalité, c'est que les Qataris lui proposent, je pense qu'on s'imagine même pas.
Chèque en blanc.
Et ça va au-delà. C'est-à-dire que, il est conscient quand même, il est conscient de ce qu'il représente, Et donc par rapport à ça, parce qu'il parle pas, mais tout le monde parle pour lui. Il sait quand même d'où il vient, et ça c'est quand même extrêmement important, d'autant qu'il est en train de développer ses structures à Aix du côté de Marseille.
Ouais.
Il y a un moment, tu réfléchis aussi un petit peu à deux fois. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne signera pas, mais c'est ce qui pèse quand même dans la balance aujourd'hui.
Alors, oui, t'es tombé l'autre
jour. Moi, je vais dire honnêtement, enfin, tout à l'heure, quand je disais que le Paris Saint-Germain anime beaucoup le mercato d'intersaison, en fait, je leur jette une pierre qui mérite pas réellement, parce que c'est pas eux qui le font. C'est les médias. Bon, nous, on en fait partie, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
C'est ça.
Il y a beaucoup de spéculation,
aussi.
Et c'est cette spéculation médiatique qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus trop où donner de la tête, parce que chacun a ses infos, chacun a ses préférences même. On a tendance à sélectionner ce qu'on a envie de, ce qu'on veut entendre, quoi, tu vois. Enfin, moi, je fais partie des gens qui seraient pas fans que Zidane signe au Paris Saint-Germain. Je vais pas m'étendre sur le sujet, ça pourrait être très.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà. Mais limite, je pense que le Paris Saint-Germain, il pourrait tester une équipe qui s'auto-coach.
Ouais, ça, c'est
avec
fou.
Peut-être avec Mbappé. Non. Mbappé aujourd'hui, les Français, les Parisiens, il est capable. Mais aujourd'hui,
non,
il a pas besoin.
J'ai une vraie question par rapport à Mbappé.
Est-ce
qu'il a vraiment son mot à dire, comme on l'entend? Ça, c'est un fake.
Non,
c'est un fake, c'est pas possible.
Non, c'est pas fake.
Et donc il a vraiment son mot à dire.
Bien sûr.
Donc le mec de 23 ans, il est quasi au même niveau que le président.
Quand t'as un chien,
président
d'un pays qui t'appelle.
Si c'est confirmé, pour moi c'est un problème.
On a Miloud qui répond, il s'adresse à Toto Bellozzo. Zidane, il est en train de griller des sardines à Aix. Il a raison. Voilà, tout comme le coach Tollet. Non, vraiment, il est sur le, c'est sur la
stratosphère.
C'est des messages que nous recevons en temps réel sur Twitter. Il y a aussi, allez, on a encore Rafik ce soir, il écoute beaucoup. Il est à l'écoute de l'émission. C'est une nouvelle version. Où est Charlie? Où est Zizou maintenant? Le mercato, comme tous les mercatos, est utilisé par les clubs et les agents de joueurs pour faire monter les enchères sans que l'intérêt soit réel. Oui.
En parlant de mercato, ça n'a rien à voir. On a aussi notre ami Sadio Mané qui se dirige tout droit vers la Baverne et vers
c'est fait à 98,9.
Ça sera pas mal.
9.
Ouais.
Il aurait été du côté de Aix.
Intéressant.
En Provence, aussi.
Ouais.
Oh, lui, peut-être qu'il est en train de se griller des sardines aussi.
Il aime beaucoup Marseille, en plus, il paraît, Sadio Mané.
Il était au Sénégal sur un terrain battu, mais c'est vrai. Sur la terre battue.
Alors,
il va en faire un synthétique et en même temps, il présentait avec le maillot du Bayern.
C'est ça que j'aime avec Sadio Mané,
c'est fait.
Il garde vraiment les pieds sur terre, il garde vraiment ce côté authentique
d'un
personnage, je vais dire lambda, mais
il sera enfin peut-être respecté à sa juste
intéressant.
Valeur.
Mais il ne vaut que 40 millions. Ça c'est encore un autre débat aussi.
Allez, le mondial 2022 du côté du Qatar.
Time Sport. La troisième mi-temps.
C'est vrai qu'on a été averti sur les réseaux sociaux des montants de la prime que toucheront les Bleus s'ils sont fameux champions du monde encore. 2022, voilà, ça vous pourrez le voir. Je crois même que la rédaction de BFM en a fait un papier. Mais en tout cas, cette fameuse Coupe du Monde, Toto Bellozzo, Alisson, c'est comme il disait sur une interview, son président, Gianni Infantino, l'Helvète Italo, l'Italien, il est Italien, on nous dit un moment en Suisse, on ne sait plus. En tout cas, que le Mondial 2022 au Qatar sera le meilleur de tous les temps. Oui.
Comme.
Bonne pub. Comme.
Sur quel critère? Comme, voilà, celui, sur quoi il se base.
Celui de 2018 a été élu meilleur mondial. Je rappelle,
d'accord.
2018?
Oui, 2018.
J'ai préféré 2014, par exemple, personnellement.
2014, du côté du Brésil.
2018, c'était pas mal niveau organisation.
C'est vrai.
Il n'y a pas eu des débordements, c'était tout.
Rien.
On parle d'organisation, on parle aussi de jeux.
Non, mais d'organisation.
Jeux, organisation, de tout.
Non, mais si on parle de l'organisation, au niveau du déplacement du supporter, les flux ont été très bien gérés.
C'est vrai.
Au niveau des stades, c'est-à-dire les temps de repos, etc. Je trouve qu'en Russie, ça a très très bien été géré.
Les Russes gèrent bien.
Bah, apparemment, c'est important de le dire. Par exemple, on avait une crainte sur le mondial en Russie, parce qu'on sait que la Russie n'est pas forcément un pays ami de la communauté LGBTQ+. Et Vladimir Poutine a dit clairement que la communauté LGBTQ+, était bienvenue en Russie et que ça allait extrêmement bien se passer. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Il y a eu aucun débordement, il y a eu aucune agression dans les rues. On n'a pas vu un semblable de ce qui s'est passé, par exemple, chez nous au Stade de France. Ça s'est très très bien passé en Russie. Donc quand même, il faut aussi le savoir, le souligner.
C'est vrai. Les marées humaines, ils étaient assez sympas, quoi. C'est vrai, avec, on s'en souvient avec le Pérou ou d'autres nations.
Bien sûr.
Dans les rues.
On a vu des scènes de liesse entre supporters. Ouais. Enfin, c'était juste incroyable.
C'est vrai.
Ouais, bah
après. Bah après. Mondial 2022 au Qatar.
Gianni Infantino,
le président de la FIFA.
Après, je serais curieux de savoir quel est le montant qu'il aurait pu éventuellement percevoir pour avoir.
Mais non,
je rigole, évidemment.
Mais non.
Évidemment que je rigole, mais.
C'est la vérité, mais alors, mais non, déjà. Le président de la FIFA.
Non, mais ce serait un peu. Dire des choses à tort à travers d'annoncer ça. Mais moi, ce que je pense réellement, c'est qu'il faut avoir, on est d'accord qu'il faut avoir deux grilles de lecture sur une Coupe du Monde. L'organisation et le terrain. Mais je pense que le terrain prime. Faire un effet d'annonce en disant que ça va être la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, il peut dire que c'est peut-être la Coupe du Monde en termes de spectacle en dehors du terrain qui a mis le plus de moyens. Ça, il peut faire un effet d'annonce là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'amoureux du football, c'est de savoir ce qui va se passer sur le terrain.
Oui.
Si on a 110 matchs moribonds et qu'on s'emmerde devant la télé, mais qu'on a eu un concert de Shakira
et des feux d'artifice à chaque match, oui, exactement.
Sur des supers
Shakira
stades,
tranquille, elle a deux problèmes à régler là-bas.
Shakira ou un autre chanteur.
Voilà,
mais disons que si on a sur le spectacle façon Super Bowl, mais que derrière on a deux blocs bas et que ça fait des un partout et qu'on a pas de spectacle, bah, c'est quoi, t'es gentil avec ta meilleure Coupe du Monde de l'histoire.
Ouais.
Moi, j'ai envie de voir autre chose. Tiens, moi, depuis que la télévision en HD, j'aime bien le football un peu tube cathodique à l'ancienne, avec plein de défauts, avec ce spectacle, avec ce football qui se donnait à fond.
T'as pas de problème, on va te faire plaisir après.
Après, peut-être. Après, là où il a raison, c'est que ce qui est inédit, c'est qu'ils vont jouer au mois de novembre.
Ouais.
Les joueurs vont être en pleine bourre.
C'est une première.
Et ça peut. Oui, bon, alors, ils seront peut-être pas usés. Allez, ils seront
en repos, là.
Peut-être pas, moins en jambes, parce qu'ils sont en début de saison. Mais ils ne seront pas usés par 70 matchs. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est qu'aujourd'hui, les calendriers sont tellement chargés que quand ils arrivent à la Coupe du Monde, les mecs, ils ont plus de jus.
Bah moi, justement, c'est ce dont j'ai peur, Toto. C'est quand tu parlais du jeu. Finalement, les joueurs n'auront pas énormément de repos.
C'est vrai.
Là, ils sont en vacances.
Oui,
mi-juillet, ça va reprendre.
Certains championnats reprennent.
À peu près... quasiment tous les championnats.
C'est ça.
Et oui, mais voilà. Mais après, donc, ça va s'enchaîner très vite. Si je ne m'abuse, je crois qu'il y aura que à peine 10 jours de mise au vert avant de commencer la compétition. Donc, j'ai peur que déjà les joueurs arrivent cramés, même si effectivement c'est un début de saison officiellement, mais c'est quand même la continuité d'une saison. Ouais. Il n'y aura pas eu vraiment cette cassure avec cette mise au vert, avec cette préparation, avec ces matchs amicaux, par exemple entre les nations. Donc en termes de spectacle, moi j'ai pas l'impression que ça sera une Coupe du Monde extraordinaire. On va assister à des matchs, je pense, à des 1-0, des 1-0 bloc bas, avec des joueurs peut-être fatigués. Par exemple, si je prends l'exemple de notre équipe de France, Didier Deschamps a quand même peu de marge d'ici à la Coupe du Monde, parce que je le rappelle, il y a quand même peu de matchs
entre
aujourd'hui et le début de la Coupe du Monde.
Ouais.
Quand on a vu ce qu'a donné cette équipe de France pendant la Ligue des Nations, voilà, où on ne sait pas qui mettre au milieu, qui mettre en défense, qui mettre en piston, on n'a qu'une certitude finalement, c'est l'attaque, et encore parce que sur l'aile droite, on ne sait pas trop si ça sera Griezmann, ça sera Coman, ou peut-être éventuellement Dembélé si Deschamps en a envie. Donc voilà, on va arriver dans quel état, on va arriver dans quel état de forme, dans quel état tactique. Ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour les autres équipes.
Là où je la rejoins, je la complète,
c'est sur la préparation.
C'est que d'habitude, je rejoins aussi Toto, c'est que t'as la fin de saison, les gars sont en général cramés, 60 matchs, t'as joué la Ligue des Champions, etc. Faut régénérer le corps, etc. Là, en fin de compte, t'es en pleine saison. Comment les joueurs vont gérer ces matchs de Coupe d'Europe, surtout sachant que tu sais que t'as une Coupe du Monde qui va démarrer 10 jours après. T'as tout intérêt, enfin t'as envie surtout, pardon, quand tu es joueur, de dire ouais, mais là j'ai la Coupe du Monde dans quelques semaines, faut que je la dispute. Donc est-ce que je vais lever le pied?
Alors c'est l'impact.
C'est ouais. je
sais, ouais,
c'est
problématique.
Sur la seconde partie de saison,
c'est au mois de juin.
Ouais.
Toujours, ils peuvent se poser la même question,
ouais.
Au mois de mai ou au mois d'avril, mais
enfin, là, t'es en pleine saison.
Non, mais là, t'as la cassure, tu peux gérer un petit peu plus.
En fait, t'es en pleine saison, et surtout, tu sais, quand t'arrives en fin de saison, tu sais que t'as les finales, donc c'est.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que généralement, les joueurs sont vraiment en pleine bourre à partir du mois de janvier. Là, c'est une Coupe du Monde qui va se jouer au mois de novembre. On sera pas trop loin du
décembre.
Enfin, ouais, mais voilà.
On aura un Boxing Day français.
Donc voilà, donc on aura finalement quasiment des joueurs presque à maturation à l'échelle d'une saison.
C'est pas comment on va les retrouver physiquement que psychologiquement aussi.
Ah après oui, après l'après Coupe du Monde, ça c'est un point d'interrogation.
Oui, il y en a pas mal ce soir qui le pensent aussi nos auditeurs.
Je te rejoins, mais je pense que pendant la Coupe du Monde, on risque de les retrouver quand même plutôt bien préparés, je pense. Peut-être pas assez de temps de travail. Par contre, l'après Coupe du Monde, ça risque de faire des dégâts.
Ouais.
La même d'un point de vue émotionnel, c'est énorme quand même.
La
gestion
est
émotionnelle en termes de motivation. Ouais. Même si le gars, il sait que derrière, il y a le championnat, il y a la Coupe d'Europe et tout. C'est pas pareil. Comment les gars vont rebondir après une déception de mondial et tout? Je sais pas. Je suis curieux.
Et puis, on oublie aussi, cet été, il y a un mercato. Donc, tout à l'heure, par exemple. On parlait d'un Sadio Mané, le temps d'adaptation dans les nouveaux clubs, le temps de prendre les marques, et une fois que ça y est, tu arrives à prendre tes marques et à peu près à t'adapter, à peu près à savoir où tu te places et ton niveau tactique, bah tu dois quitter les tiens pour aller en équipe nationale, en sélection. Donc là aussi, ça peut créer un choc émotionnellement. Si dans ton club t'es pas très très bien, dans ta sélection t'es un petit peu plus à l'aise, mais que sur le terrain, voilà, ça se ressent pas trop.
Ouais.
Psychologiquement, c'est pas trop où se placer non plus. Donc je pense que l'aspect psychologique va être très très important.
Comme à la CAN. Avec la Coupe d'Afrique, c'est un petit peu ça. Ouais. Ils arrivent en janvier, ils ont à peine du temps.
En 2023.
On les envoie au dernier moment, et puis dès qu'ils sont éliminés, hop, on revient chez nous parce que tu t'es fait éliminer le mardi, mais vendredi soir, t'as déjà un match. Mais bon.
On termine.
Non, je suis là, mais j'écoute et j'acquiesce. Je suis assez d'accord avec ce qui se dit autour de la table. Maintenant, on va voir. On va attendre on va pas faire la Coupe du Monde avant la Coupe du Monde. Et peut-être que Gianni Infantino aura raison. Ce sera peut-être une belle Coupe du Monde. En tout cas, sur l'organisation, je pense qu'on peut faire confiance aux Qataris en ce qui concerne les infrastructures, l'organisation, les petits soins.
Vous avez vu les packages des prix des billets.
Ouais.
Enfin, c'est hyper cher.
Quand
on parle de belles
personne
coupes,
ira,
je
alors.
Te rejoins encore une fois.
Ouais.
Quand je dis, de quel point de vue, sur quel plan, c'est-à-dire que oui, niveau organisation, ça va être cool, mais niveau supporter,
il y a des soucis d'organisation. Les réservations sont pleines. Il y a un souci au niveau de la vue des supporters.
Bien sûr. En tout cas, cette prochaine Coupe du Monde de football se tiendra, on le rappelle, les dates du 21 novembre à Lisbonne, au 18 décembre du côté du Qatar. Toto Belotto et les Bleus, s'ils conservent leur titre de champion du monde, ils toucheront et percevront entre 402 000 euros et entre 402 000 à 446 000 euros.
Il va falloir aller la chercher, cette Coupe du Monde.
Pour le joueur et le poste, peut-être.
C'est gentil pour faire la précision des 46 000 euros qui va au bout des 400 000.
C'est important pour ça.
Historiquement, c'est rare de gagner deux Coupes du Monde de suite. Hein. Ouais. Là, on dit là, on a Benzema, on a Mbappé. Il y a clairement pas que
non,
ça.
On n'est pas champion du monde. On a gagné un tournoi. C'est pas pareil.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est, non, dans la posture, après, je ne vais pas faire un débat, mais l'équipe de France, généralement, les champions du monde, ils ont vraiment une posture, ils ont une stature, ils ont un style de jeu. Ils ont vraiment une assise sur le monde qui est assez
On a gagné là, un tournoi, France, selon Toto Belotto.
Malheureusement, on n'a pas cette assise. On a gagné, on a fait un beau tournoi, on l'a gagné, ça fait de nous des champions du monde, mais dans la posture et dans le fond, sur la forme, on est champion du monde, mais dans le fond, je trouve qu'il nous manque quelque chose.
Allez, vous restez avec nous, la dernière partie de cette émission, de suite après la dernière pause.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie, 20h40, toujours en compagnie d'Alison, notre consultante, mais aussi le coach Tolé, sans oublier Toto Belotto. Allez, on va partir, on va essayer de parler, ben oui, parce que le sport, mais aussi le 7e art, ça va nous faire plaisir. En plus, on a Toto Belotto là qui nous a rejoint pour cela. On y va.
Time Sport.
Eh oui, justement, c'est Coppa le coach Tollet, à jamais le pionnier. Eh oui, ça sera du côté du Théâtre Traversière, dans Paris même, la semaine prochaine. Toto Bellozzo, réalisé par un certain Farid Bouadla. Eh oui, à la production Space Cowboy, justement. Eh ben, on aimerait en parler avec toi, Toto Bellozzo, de l'illustre joueur qui était Monsieur Coppa. Hein.
Exactement.
Lui, il n'a pas joué, je crois, un tournoi. Lui, ça a été assez fort. En 1958, c'était pas mal.
Il a joué dans quel club déjà?
Ouais, bah, pareil.
Angers, Reims, Madrid.
C'est ça.
Ah, ok.
Real Madrid. Eh ouais, Real Madrid, pas mal.
Déjà, le Real Madrid.
Déjà. Ouais.
Même sans Dillon, déjà. Déjà, le Real Madrid.
Et Stefano, ou encore Ferenc Puskás, l'Hongrois, et aussi le Français. Ouais, Anto. Et Coppa, quand même. Un des premiers avec Juste Fontaine. On avait encore aussi, hein.
Plutôt première star française vraiment reconnue.
Oui, au niveau international. Il y a eu l'Arbi Ben Barek un petit peu.
Bien sûr, Ben Barek, on s'en souvient.
Mais celui qui a écrit les premières grandes lignes de l'équipe de France et des clubs français et de s'être exporté à être une star internationale, c'est Raymond Coppa, sans aucune contestation possible.
Ouais, justement. Alors, Coppa, à jamais le pionnier.
Ouais.
C'est lui. Son histoire.
Voilà, c'est son histoire. Que j'ai
réactions. Alors,
je sais pas si tu te souviens, j'étais venu la première fois ici à BRFM pour
parler
du début de la réalisation de ce documentaire que j'ai réalisé au bout de 3 ans et demi et qui arrive aujourd'hui une étape importante. Ça va être la projection en avant-première de ce documentaire. Alors c'est une projection privée,
bien sûr.
C'est pas payant, c'est totalement gratuit.
On le rappelait. On a tous les auditeurs de BRFM qui vont se pointer.
Bien évidemment. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, je laisse te contacter Bilal si
bien sûr.
À l'avant-première. Et donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure qui est assez folle parce que je pars d'une base zéro. Je pars vraiment qu'avec beaucoup de passion, avec l'envie de rendre hommage à cette première star du ballon rond qui a eu un documentaire, mais qui méritait d'avoir quelque chose d'un peu plus contemporain et de faire traverser le nom de Raymond Coppa à travers les années et de le ramener à un public actuel.
Ah ouais.
Voilà.
Alison, une réaction.
Est-ce que tu peux nous raconter en 2-3 mots, bien sûr, parce que tu dis que tu pars de zéro, le cheminement un petit peu de rien à un documentaire qui va être projeté le samedi 25 dans une salle.
Ouais.
Bah écoute, je sais que j'ai toujours été guidé par la passion. J'ai rencontré 2 fois Raymond Coppa. Une première fois où on a fait une belle interview chez lui, une deuxième fois où je me suis rendu une nouvelle fois chez lui et malheureusement, j'ai eu le triste honneur, c'est forcément un triste honneur d'être le dernier à l'avoir rencontré de son vivant parce que c'était quelques jours avant son décès. Et de par cette rencontre, j'ai gardé des liens forts avec sa femme et ses 2 filles et je me suis senti la légitimité, grâce à cette dernière rencontre, de me dire, je vais raconter son histoire.
Ouais.
Malheureusement, j'ai pas forcément les compétences de base, mais je pense que quand on a beaucoup d'envie, on va au-delà des compétences et justement, il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est celui qui veut pas trouve des excuses, celui qui veut trouve des solutions. Et moi, je voulais tellement que j'ai trouvé toutes les solutions possibles pour arriver à faire un documentaire qui, je l'espère, est à la hauteur de ce qu'était Raymond Coppa. Je voulais pas faire quelque chose de... qui n'est pas d'allure parce que c'était un joueur qui avait de l'allure, c'est un joueur qui avait des valeurs, c'est quelqu'un qui est descendu dans la mine à 14 ans, qui est ressorti blessé avec un doigt arraché et qui a fini ballon d'or. C'est une histoire incroyable. Je sais que les gens autour de la table aujourd'hui seront présents le 25 et j'espère que vous découvrirez une belle histoire. Donc voilà, donc ça a été passionnant de faire ce cheminement et d'avoir quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que tous les gens que j'ai pu rencontrer, alors s'il y a bien quelque chose dont je suis fier dans ce documentaire, c'est d'avoir un casting aussi beau et aussi riche. J'aurais jamais pensé pouvoir avoir Emilio Butragueño, le vice-président du Real, Guy Roux, Jean-Pierre Papin,
aussi,
Jacques Martel, paix à son âme, Gérard Rouillet, Daniel Riolo, Jean-Michel Larquet,
mon frère d'RMC.
Il y a pas mal de monde qui ont accepté avec... c'est pas pour moi qu'ils ont accepté parce que je présume, mais c'est un honneur pour eux de participer pour parler justement d'un joueur dont eux ont été fans. Je vois encore les yeux de Guy Roux
qui
lui était fan de Coppa quand il était jeune.
Ouais.
Enfin voilà, c'est Philippe Tournon que je remercie beaucoup parce que
nous avons reçu dans cette émission aussi.
Exactement, qui est une personne absolument géniale et qui est le narrateur de cette de qui fait la voix off du documentaire. Et voilà, c'est un vrai honneur que d'avoir toutes ces personnes là qui ont accepté et pour eux-mêmes c'était un honneur de parler de Raymond Coppa.
L'année 50-60, ça nous replonge un peu dans un cinéma, un autre football, mais aussi ça nous rapproche aussi de de cette grande époque du cinéma français, je sais pas. Ah, on va pas parler de Tonton Flingueur, mais plutôt des films à la Melville, à la Audiard ou encore Truffaut. Bah, c'est pas, non, quand on parle de Coppa, et pourquoi pas s'enorgueillir peut-être de le dire comme ça. Moi, Toto Bellozzo, en tant que journaliste, impartial, la neutralité, je dois la mettre en avant chaque soir dans cette émission. Mais c'est vrai que quand on entend Coppa, ça nous fait un peu penser à ces personnages, quoi. On a connu dans le cinéma français et aujourd'hui à travers le football.
Je le redis encore. Vraiment bravo, Toto, parce que je sais que tu m'as parlé, on a parlé de ce projet il y a 3 ans et demi. Tu me disais, voilà, j'en suis là, tout ça, mais t'avais besoin de, il te manquait pas mal de choses, mais. Ouais. T'as bien défini que voilà, de par la passion et par l'envie, donc vraiment encore bravo. Et ce que je trouve intéressant, comme le dit Bilal, c'est que nous on a grandi avec Zidane, avec Platini, avec maintenant aujourd'hui Mbappé, Benzema, et je pense que c'est important pour les personnes qui sont passionnées, mais pas forcément de football mais de sport en général, que tu mettes en avant, d'histoire, que tu mettes en avant une personnalité française, l'occurrence Coppa, qui est l'une des premières stars du sport français. On parle de football, mais c'est une des premières figures aussi extrêmement importantes. Donc c'est important pour l'histoire, et malheureusement il y en a trop peu de réaliser ce type de documentaire, quoi. Donc bravo.
C'est incroyable.
Ouais. C'est touchant, mais en tout cas, merci beaucoup, Claude.
Le rendez-vous, on peut le donner, le rendez-vous?
Bien sûr.
Toto Bellozzo. Alors justement, ça sera dans Paris, Théâtre Traversière, dans le 12e, je crois.
Exactement, en face de la gare de Lyon, à
19h. On veut venir, on peut s'inviter. Parce que c'est vrai, ça fera plaisir, à mon avis, à des auditrices, des auditeurs aussi, pourquoi pas, de venir.
Alors, il faut s'inscrire avant.
On peut s'inscrire.
Parce qu'il y a, bien sûr, on peut s'inscrire.
Comment on fait?
Rejoignez-moi sur ma page Facebook Toto Bellozzo. Rejoignez-moi vos noms et prénoms.
Voilà.
Je vous inscrirai avec grand plaisir.
Voilà.
Et en tout cas, si je peux me permettre, j'aimerais faire un petit remerciement.
Ouais.
J'aimerais remercier la team.
Ouais.
Parce que, il y a actuellement deux personnes qui m'aident beaucoup pour cette avant-première,
bien sûr,
l'organisation de cette avant-première,
oui,
et qui m'apportent énormément d'un point de vue soutien et logistique, conseil, et je voulais les remercier à l'antenne. Vous déchirez. Je vous donne rendez-vous au 25.
Ah ben voilà, il nous donne rendez-vous au 25, il reste avec nous jusqu'à 21h. Et notre consultante Alison, peut-être une dernière réaction pour parler cinéma, voir 7e art.
J'ai une question pour toi, Toto. Justement, tu parlais que tu avais à la fois la chance et la tristesse d'être la dernière personne à avoir interviewé Coppa. Est-ce que samedi, il y aura la présence de la famille, et toujours en relation avec la famille, est-ce que avant justement cette avant-première, il y a eu une avant-avant-première pour la famille, pour qu'ils puissent découvrir en toute intimité finalement ce documentaire et cet hommage, j'ai envie de l'appeler, limite, de ton documentaire?
Alors, c'est vrai que la famille Coppa, depuis le début, enfin Madame Coppa, Christiane Coppa, me soutient, m'a toujours fait en sorte de m'ouvrir des portes, me donner des autorisations pour faire un petit peu, pas ce que je veux, mais d'utiliser des images, des
images inédites,
des archives familiales à utiliser dans le documentaire, et ils seront présents. En tout cas, Christiane Coppa et Sophie Coppa, sa fille, seront présentes le 25.
C'est super.
Il y aura d'autres personnalités, mais moi, c'est avant tout la personne centrale qui me fait plaisir d'être là ce jour-là. C'est Madame Coppa qui va découvrir en même temps que vous
ce
documentaire. Moi, ça me met beaucoup de pression.
Voilà.
Ça me met beaucoup de pression parce que je me suis attelé à une mission à laquelle je n'étais pas forcément à la hauteur. Et je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Donc voilà, vous en jugerez par vous-même. J'ai le nez trop dans mon projet pour avoir un recul nécessaire pour pouvoir juger.
Bien sûr.
Je vous laisserai en juger. J'espère que vous ne direz pas. Punaise, c'était
une avant-première d'un documentaire à 5 incroyable sur Raymond Coppa.
Non, mais on peut que le respecter déjà. On peut que te respecter pour ce travail fait.
Ouais.
C'est comme tout, comme tu dis, au départ t'as peut-être pas les compétences, mais c'est une compétence justement de croire en ce projet, d'être allé au bout. Donc déjà, pour moi, c'est une étape réussie. Maintenant, je ne doute pas.
Alors, on se donne rendez-vous le samedi 25 juin à 19h au Théâtre Traversière. Voilà, si des personnes veulent venir et même après intervenir, parce que la projection sera suivie de questions-réponses avec Toto Bellozzo et aussi toute l'équipe concernant ce fameux documentaire Coppa, à jamais le pionnier. Tout simplement, on peut aller sur le réseau social qui est Instagram et envoyer un message à Toto Bellozzo.
Ouais, moi je suis plus Facebook, j'ai Instagram.
Facebook,
Facebook. Toto Bellozzo,
il
n'y
a pas de problème. Allez, Facebook, il a raison, Voilà, le message est bien passé, Toto Bellozzo.
Sur Coppa d'avant.
Ouais, c'est ça. Là, c'est sympa. Encore. Allez, on va terminer avec cette dernière rubrique, allez, concernant la NBA.
Time Sport, le mode pressing.
Et en battant les Boston Celtics, eh oui, lors du match 5 des finales NBA de cette saison 2022, et les Golden State Warriors ont marqué un peu leur époque, Allison. C'est vrai, pour une quatrième bague en 8 ans. Eh oui, les fameux hommes dirigés par un certain Steve Kerr et drivés par aussi un Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Draymond Green. C'est fort, c'est fort. Il y en a qui diraient c'est son saveur, mais bon.
Non, c'est fort, ouais. D'autant plus que Golden State revient de loin, on le rappelle. Hein,
pas faux. Pas...
Ils n'étaient pas donnés vainqueurs au terme de ces cinq matchs.
Ouais.
On a vu aussi un Stephen Curry, je le rappelle, un étincelant pendant notamment les derniers matchs. Et voilà, c'est fort. Quatre bagues en 8 ans, c'est quand même dans le
ils ont une place à part dans l'histoire de cette discipline.
Du basket et
dans
ce qu'on connaît actuellement, c'est très très fort.
Alors, Allison, on n'a pas que des auditeurs, des auditrices qui aiment le football, on a aussi des auditeurs qui aiment aussi la planète basket. Allez, pour cela, il a composé le 01 53 48 3000, et c'est Mourad. Bonsoir Mourad.
Bonsoir l'équipe Time Sport.
Comment ça va Mourad? Ça va très très bien Mourad. Alors on vous laisse à peu près 2 minutes pour enchaîner sur le championnat nord-américain et cette fameuse finale de NBA. Mourad,
je voulais juste confirmer que coach Tolley a raison.
Ouais.
Zinedine Zidane est bien dans le sud en train de faire des sardines.
Oh là, tu vois le coach Tolley, lui il est déjà l'auditeur, il est déjà dans le sud.
Il a raison.
Il n'y a pas de souci. On vous croit.
Je tenais à féliciter Toto pour son documentaire.
Merci.
Voir l'interview qu'il a fait avec Salvatore Esposito.
Là aussi, il y a un amoureux de Gomorra, ouais.
Ça, c'est autre chose.
Ah ben, on verra bien aussi cette fameuse interview de Toto Bellozzo. Mourad, les Golden State Warriors, justement, selon vous,
ils ont repris leur dynastie en main.
Ouais. Pour vous.
Et comme a dit Allison, ça fait 3 ans où ils étaient en difficulté, blessure de Klay Thompson, blessure de Stephen Curry.
Ouais.
Ils ont dû aussi régresser les salaires, prendre des joueurs moins chers. Stephen Curry est revenu après blessure, Klay Thompson aussi, mais surtout, faut pas oublier que ce travail de
Steve Kerr.
Le coach.
Ouais.
Voilà. C'est ça.
C'est
lui en fait. C'est lui et c'est tous les gens autour du directoire, des commissionnaires qui ont dit qu'un jour ou l'autre on va revenir en finale et on va reprendre le titre parce que on a écrit une dynastie et elle n'a pas pris fin après 2019. Donc la preuve en est, c'est sûr qu'il y a eu d'autres, équipes qui ont gagné, les Lakers, les Raptors, les Bucks la saison dernière. Mais les Warriors sont revenus avec une équipe moins fringante, moins forte. On ne les attendait pas en finale NBA cette saison. Ils ont fait une bonne saison. Mais en play-off, on ne pensait pas qu'ils arriveront en finale.
Eh ben là, en tout cas, c'est fait,
plus une équipe de Phoenix.
Ah ben Mourad, un grand merci d'avoir réagi avec nous vraiment sur cette antenne, Mourad. On n'a plus trop de temps, Mourad. C'est que vous aimez beaucoup la NBA. On se donne rendez-vous dès lundi prochain avec vous. Bon, à tous les auditeurs de Beurre FM. Oui, rapidement, un mot, Toto Bellozzo.
Merci à Lia, ma fille, et merci à Beurre FM de me réaccueillir.
Ah ben merci, Toto Bellozzo, coach Tolley, et aussi Allison. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre.